vais vous faire une présentation, on va dire. Enfin, j'avais pensé que ce soit une présentation aussi qui puisse prendre la forme aussi d'une discussion, de quelque chose d'assez ouvert. Là, je vais utiliser un document qui va être édité sous la forme d'un livre monographique fin janvier, donc qui s'appelle Sonorama, qui va être publié aux éditions Dilecta et qui présente une sorte de panorama des œuvres sonores que j'ai développées depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé j'ai eu plus un travail dans un premier temps en photographie, sur les questions de l'image, puis un travail en sculpture. Et assez rapidement, en fait, fin des années 80, début des années 90, j'ai commencé à souhaiter, à utiliser le son. Parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi le rapport de l'espace, de la sculpture dans sa dimension sonore. Alors, dans un premier temps, les premières œuvres que j'ai réalisées sous forme d'installation de sculpture utilisaient des techniques analogiques, bien sûr, avec en utilisant les bandes magnétiques, et dans le cadre des installations sonores, c'était souvent un peu compliqué quand il fallait qu'elles restent pendant 3 semaines, 1 mois, voire plus, parce que ça nécessitait une vraie maintenance, on va dire, quotidienne. Et puis aussi, la qualité du son, elle n'était pas du tout aussi bonne qu'aujourd'hui. Et donc ces techniques, dès les années 2000, fin des années 90, les outils numériques vraiment m'ont permis de ne plus trop me soucier de ces questions-là, et puis d'obtenir des qualités sonores vraiment de meilleure qualité et avec une maintenance qui était divisée par 80. Donc ce qui a changé vraiment beaucoup de choses par rapport aux installations. Alors là, je vais donc ouvrir ce document. Donc voilà. Alors ça, ce sont les premières œuvres, les sculptures. Donc là, ce sont des sculptures pour l'extérieur, où cette dimension du son déjà, sonore, existait déjà, puisque là, j'avais installé en 90, des feuilles de cire d'abeille à l'extérieur, de façon à ce que les abeilles puissent venir butiner ces feuilles de cire et générer une sorte de halo, de bourdonnement autour des sculptures. Enfin, de la première et de la seconde, là c'était du miel liquide qui était dans les vasques, et là aussi on entendait en fait le bourdonnement des insectes et notamment aussi des abeilles. Donc ce qui m'intéressait là, c'était que la sculpture puisse aussi être une source de nourriture pour ces abeilles, et le bourdonnement permanent qu'il y avait faisait donc aussi partie de l'œuvre. Ça, c'est une œuvre ensuite réalisée en 92. Alors ça, ce sont des documents, des photographies argentiques, et donc qui sont des archives. Donc là, c'était donc des sculptures qui étaient silencieuses, en mouvement, et où déjà cette question de rapport analogique, on va dire, entre la forme de déplacement de la matière et ses éventuelles qualités sonores aussi étaient convoquées. Donc ça, c'est une œuvre donc réalisée, c'est une toile de sel, donc avec un tube néon circulaire. Donc même si a priori c'est une œuvre silencieuse, ce qui m'intéressait là dans cette œuvre particulièrement, c'était le bourdonnement que générait aussi le tube fluo qui était sous tension. Et donc là, donc avec l'enduit de sel qui couvre la toile, en fait, rendait enfin, on ne pouvait pas regarder de face ce monochrome puisqu'il était aussi complètement aveuglant et puis qu'il y avait une persistance rétinienne enfin, où ce carré blanc s'imprimait. Donc là, c'est une œuvre sonore constituée par deux modules. Où là, en fait, c'est une des premières fois où j'ai installé avec ces bandes magnétiques et cette œuvre sculpture sonore. Donc il y a deux bacs, donc un donc, qui est couvert de silicate de soude qui absorbe l'humidité, et l'autre qui était en face, qui était une toile tendue qui récupérait par un système de vase communicant l'eau qui était récupérée dans le premier. Le son qu'on entendait, donc c'était installé dans une église, c'était un son d'inspiration et d'expiration. Et en fait, les deux sculptures au début n'étaient pas visibles. Et donc l'idée, c'était un dispositif en stéréo qui fonctionnait aussi avec la respiration. En fait, l'eau qui était rejetée sur un des modules constituait aussi en même temps un miroir. Donc ça, c'est une exposition donc au FRAC Bretagne. Où là, toutes alors l'œuvre qui est au sol, surface de tremblement, c'est une toile tendue sur châssis avec des gouttes d'eau à la surface de cette toile et des haut-parleurs qui étaient installés en dessous. Et qui faisait vibrer et se déplacer les gouttes d'eau en fonction du son. Et là, c'était les sons du lieu qui avaient été enregistrés et qui étaient aussi diffusés avec les sons de pas, les sons de murmures, de paroles. Et puis ensuite sur la toile qui est au mur là à gauche, c'est une qui s'intitule Toile de souffle. Là aussi, c'est un dispositif qui fonctionne aussi autour de cette idée de la respiration et où le son d'un ventilateur amplifié faisait gonfler et dégonfler cette toile.
C'était un son enregistré de ventilateur?
Non, c'était le son il y avait un petit ventilateur qui était derrière et donc amplifié et c'est une respiration, on va dire mécanique, un souffle mécanique. Alors, ça, c'est les cellules acoustiques. Donc, c'était au fond de la salle. Donc, il y avait trois cellules réalisées avec un enduit de béton et avec un isolant acoustique à l'intérieur. Dans la première des cellules, on rentrait Et donc on entendait donc le son de la ville que j'avais, enfin du carrefour qui avait à l'extérieur du lieu d'exposition. Ensuite, dans la seconde, on entendait les sons des sons de pas dans tout le bâtiment. Et dans la troisième, le son d'un électrocardiogramme. C'est-à-dire, l'idée, c'était de zoomer dans le son et d'entendre et d'écouter donc l'environnement extérieur, puis intérieur, puis son propre battement de cœur.
Et c'était diffusé comment à l'intérieur de...
Alors, à l'intérieur, c'était des. Alors, tout ça, c'était avec des bandes magnétiques qui étaient en boucle. Et donc avec des haut-parleurs et il y avait des détecteurs de présence où le son se déclenchait quand on rentrait à l'intérieur. Donc ça c'est une autre architecture sonore, 10 mètres cubes d'espace sonore, donc où là c'est une structure métallique donc de 10 mètres cubes. Alors là ce qui m'intéressait c'est de reprendre le format d'une cellule, on va dire, archétypale, et qui a enfin, les dimensions en même temps minimales pour une personne, que ce soit dans des cellules monastiques, que dans des capsules d'astronautes, que dans des cellules carcérales. Donc ça fait 10 mètres cubes, c'est-à-dire qu'on peut se tenir debout, allongé et assis. Donc les parois étaient réalisées, enfin faites avec une matière de plafond tendu, ce qui permettait noir d'avoir un effet en fait miroir et où cette œuvre quand même assez monumentale en fait disparaissait dans le lieu d'exposition. Et quand on rentre à l'intérieur donc de cet espace complètement noir, on ne voyait en fait que la lumière qui rentrait par les arêtes de l'architecture. Donc on était à l'intérieur en fait d'une sorte de dessin lumineux. Et ce que l'on entendait, c'était le son du toucher de la structure. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de traduire, on va dire, presque mélodiquement, la présence de cette architecture. Donc c'est vraiment le son du toucher, de la structure. Donc on avait cette perception avec les lignes lumineuses et le dessin, qui était souligné par et la forme par le son.
Le son était projeté comment?
Et le son à l'intérieur, c'était aussi des bandes magnétiques en boucle. Et là, par contre, il n'y avait pas de détecteur de présence. C'était en continu.
Donc on voyait le dispositif.
Non, il était au-dessus du plafond. Donc en fait, on ne voit jamais, enfin, dans les structures précédentes, les architectures, on ne le voit jamais. Il y a les haut-parleurs, donc entre 2 et 4, là il y en avait 4, mais qui n'étaient jamais visibles. Et donc là, les mains donc fonctionnaient aussi avec cette architecture, donc sont des mains en cire, mes mains, et donc à l'intérieur desquelles il y a de l'eau noire. Et il y en avait toute une série qui permettait en fait d'avoir cet effet aussi miroir qu'on retrouvait à la surface de l'architecture et qui permettait d'avoir des points de vue sur des détails de l'architecture. Donc ça c'est une œuvre réalisée en collaboration dans le cadre d'une résidence avec le CNRS au laboratoire de recherche sur la matière divisée donc à Orléans. Ce laboratoire du CNRS travaillait et continue à travailler sur les nouveaux matériaux mais aussi mettre au point à partir de d'argile de synthèse ou d'argile naturelle qui ont des propriétés assez extraordinaires. Ils mettent au point aussi tous les systèmes de prothèses qui vont être placées par greffe. Mais aussi, il y avait un des laboratoires de ce centre de recherche qui travaillait sur les impacts sonores dans la matière. Et notamment, il réalisait toute une série d'expériences avec de l'argile de synthèse, donc la laponite. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai voulu travailler. Donc, pour cette architecture, j'ai réalisé un espace dont les parois sont enduites d'argile naturelle, et qui a les proportions, la forme d'un couloir. Donc ce qui m'intéressait là, c'est que ce soit un espace de passage qui devienne aussi une architecture. Et donc le son qu'on entendait quand on traversait ce couloir, c'est le son d'une déchirure. Donc là, où le son était spatialisé, toujours avec des bandes magnétiques, avec des détecteurs de présence. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le couloir, le son se déploie. Et de la même manière, en fait, on voyait l'apparition d'une fracture donc, qui était lumineuse à l'intérieur du couloir. Et il y avait une analogie, en fait, formelle entre la forme du son enregistré et la forme de la déchirure.
Mais ce n'était pas le son qui avait créé la déchirure?
Non, en fait, il y avait une vraie analogie. C'était assez étonnant. Mais bon, alors en fait, moi, j'ai fait ça de façon assez intuitive. En même temps, ça intéressait beaucoup les chercheurs qu'il y ait comme ça une correspondance. Puisque effectivement, les sons, donc les sonogrammes, là, au spectrogramme, donc ils ont une forme qui est vraiment analogue à la forme de cette fracture, fissure, et alors que ce sont effectivement des analyses numériques. Voilà. Donc ça, ce sont une série de sculptures qui s'intitule Espace en creux. Donc, qui sont aussi des sculptures sonores. Là où j'ai travaillé, à partir des plans cadastraux de la ville de Charleville-Mézières, parce que là, c'est une expo qui avait eu lieu donc au musée de l'Ardenne et au musée Arthur Rimbaud, et où j'ai relevé dans le plan cadastral tous les espaces en creux de la ville, sur lesquels j'étais allé faire des enregistrements et que j'ai mis espace en creux a été réalisé en volume à l'intérieur desquels donc on entendait une composition sonore réalisée à partir des enregistrements qui ressemble un peu aussi à une sorte de jeu de construction. Et que j'ai mis en vis-à-vis avec les portraits, dans la galerie de portraits du 18e, du musée de l'Ardenne, et qui étaient des portraits de personnages, on va dire, illustres de la ville. Donc ça, c'est une autre œuvre sonore. Donc tout ça, c'est toujours avec les bandes magnétiques. Les voisins du dessus, qui est réalisé à partir d'un rouleau de lino sur lequel j'ai dessiné un plan d'appartement qui est un studio. Dans chaque pièce Donc il y a un détecteur de présence. Donc là, le spectateur est invité à piétiner donc ce tapis. Quand on passe dans chacune de ces pièces qui sont sur le plan, en fait, ça déclenche le son des voisins donc du dessus, du dessous. Des sons qui peuvent être tout à fait dérangeants ou pas. Et dans l'espace de la pièce principale, on va dire, du studio, donc on entend un couple qui est en train de s'entretenir sur cet espace qui est trop petit. Le rouleau de lino, en fait, nous renvoie en même temps au rouleau de calque de l'architecte. Et tout ça reste une sorte de projection mentale de l'habitat et de son rapport aussi au son.
Et du coup, là, en dessous, c'est des tasseaux en bois ?
Oui, c'est des solives, en fait, qu'on utilise pour le plancher.
Et comment, du coup, le visiteur...
Parce qu'en fait, il y a les solives, il y a des panneaux de bois, et ensuite, le rouleau, il est déployé. Et en fait, on peut marcher dessus, c'est assez grand. Hein.
Oui, d'accord.
Okay. Donc, ça fait 160, là, ça doit être 160 de large. Hein. Donc, ça, c'est une autre œuvre sonore, numérique, 2000. là, c'est une série d'œuvres qui m'ont été commandées. Conférences sur le silence sont installées dans un parc privé, un parc de sculpture. Et moi, j'ai fait un parcours dans ce très grand parc, un parcours sonore, où le promeneur, en fait, lorsqu'il passe soit à côté des sculptures, soit dans certaines zones que j'avais déterminées, ça déclenche des sons. Et là, ce sont des dialogues qui sont diffusés avec les haut-parleurs qui étaient installés dans les arbres. Alors, soit des murmures, soit des dialogues sur le rapport au silence dans l'espace du jardin. Donc, c'est un parcours qui faisait 40 minutes, avec une série de sculptures qui fonctionnaient de nuit et de jour.
Il y avait écrit quoi sur le...
Écoute l'apesanteur. Donc ça, ce sont d'autres œuvres sonores. Donc celle de droite, c'est Plateau délibératoire, réalisé en 2001, où là, ça a été pensé comme une sorte de table de manège, un espace en même temps assez ludique, où le son est à l'intérieur du plateau. Et si on veut entendre ce son, en fait, on doit poser la tête dessus et donc entendre les monologues intérieurs qui seraient ceux de quatre participants à une réunion autour de la question de l'aménagement du territoire. Cette table, elle est installée un peu comme un manège dans un espace... de jeux ou un parc pour les enfants ces monologues n'ont rien à voir avec ces questions de l'aménagement du territoire en fait ce sont vraiment des monologues intérieurs et en fait quand il y a quatre personnes qui sont dessus en fait avec le système de roulette on se déplace à l'intérieur de ce plateau, comme si en fait il pouvait condenser la mémoire des pensées intérieures des participants. Et puis l'œuvre de gauche, c'est Folie numéro 1. Donc là, c'est un jardin miniature, enfin, oui, donc en hauteur, où, donc réalisé avec des bonsaïs, et où on fait cette expérience, en fait, d'un autre rapport d'échelle, puisque quand on a le visage, enfin la tête qui émerge de la structure, donc on est comme dans une situation comme si on était allongé dans une forêt ou dans un parc, avec des premiers plans avec les arbres, et puis surtout l'odeur de la mousse, et donc là on entend des conversations de jardiniers. Ça, c'est une œuvre réalisée donc en Roumanie. Celle de gauche, là, Play It Now, donc réalisée à partir d'un rouleau de moquette, qui a été perforée avec ce texte. L'idée étant de reprendre ce texte qui nous renvoie bien sûr au jeu, et le son qui était diffusé en continu en fait était le son d'une ritournelle roumaine, et donc j'avais travaillé avec un groupe de chanteurs, et on avait fait donc cette variation autour d'une chanson donc traditionnelle, et donc avec un système de canon et puis aussi d'improvisation. Et donc l'œuvre de droite, là, c'est une projection vidéo qui s'intitule Poursuite, sur un dessin qui était un dessin de paysage, donc qui était tracé au mur, et où en fait la projection vidéo dans le cercle en fait révélait la forme du paysage d'origine et qui correspond complètement au dessin. Et donc là, le son qu'on entendait, c'était le son d'une cascade.
J'ai pas compris.
En fait, il y a une image, une vidéo d'un paysage de cascade, et avec des caches, j'ai supprimé tout le paysage, mais en fait il est visible dans sa totalité avec le dessin du contour des rochers et du paysage. Et ensuite, donc le cache ne révèle que des parties, comme une poursuite de théâtre en fait. Et on voit un personnage en fait qui escalade cette cascade. Et donc voilà. Et le son qu'on entendait, donc c'était le son de cette même cascade amplifiée. Donc ça, c'est une œuvre réalisée au Centre d'art de Pouglézo, au Parc Saint-Léger, donc dans le cadre d'une exposition collective Animagus. Au-delà, pour la première fois, j'ai travaillé avec des oiseaux vivants, donc qui sont des perruches vertes, donc à collier, et où en fait j'avais complètement clos cette salle, de façon à ce que le spectateur puisse rentrer dans la cage, sachant que ces oiseaux sont un peu agressifs quand même. Que ce sont de la même famille que les perroquets, et avec ce risque de on va dire d'approche, et donc la sculpture qu'on voit là en fait, c'est un perchoir, mais un perchoir que j'ai conçu pour les hommes, et donc où on est invité à venir faire l'expérience du déséquilibre devant le regard de ces oiseaux qui, eux, s'en foutent complètement. Et donc, en fait, voilà, c'est une expérience de déséquilibre, déjà, parce qu'il faut trouver le bon endroit pour ne pas tomber. Et puis, face à ces oiseaux qui, eux, se balancent. Et donc, il y avait une vidéo aussi qui était projetée sur cet écran de plumes blanches, où, donc là, j'ai pas mis l'image, où en fait, moi, je me suis. J'ai fait une expérience justement de cette apesanteur, où je me suis jeté à l'élastique, et donc où la forme du corps reprend un peu celle des oiseaux. Sauf que bah, nous, s'il n'y a pas d'élastique, c'est fatal. Et le son, il y avait un son continu, puisque j'ai réussi, parce que comme ces perruches sont de la famille des perroquets, en fait, je les avais fait travailler sur un morceau d'une série de notes, et en fait, qu'elles chantaient de temps en temps. Et je les avais enregistrés, et ensuite ça passait aussi en boucle dans cet espace. Mais c'était à partir vraiment d'une toute petite mélodie. Mais donc elle chantait. Parce que sinon elle crie. Donc après, dès les années, on va dire 2000, 2001, moi j'ai commencé à travailler sur les questions qui étaient déjà un peu à l'œuvre dans les œuvres précédentes, là où j'ai commencé à utiliser des dialogues, la voix, alors que dans les premières œuvres, c'était surtout des sons d'environnement qui étaient retravaillés, mais après j'ai eu la nécessité d'utiliser la voix dans son rapport avec le texte aussi. Donc ça commence en 2000, donc avec conférence sur le silence. Donc il fallait que je parle de ce silence pour en même temps le donner aussi à percevoir dans l'installation, dans le parc. Et donc j'ai découvert l'existence des langues sifflées. Donc ces langues sifflées sont des langues qui sont pratiquées par une quarantaine de communautés dans le monde, enfin de moins en moins au fur et à mesure des années. La particularité, c'est que ce sont pas des langues codées, ce sont des langues qu'on appelle miroirs. Et à partir des années 2000, j'ai travaillé avec le CNRS, donc sur le laboratoire à Paris de phonétique, phonologie et phonétique expérimentale. Parce qu'Annie Réalan, qui était la responsable de ce labo, était la seule en France à avoir développé tout un travail d'analyse scientifique sur ces questions du langage. Siffler aussi des instruments parlants. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documents en 2000, et puis les sites même de scientifiques du CNRS n'étaient pas très alimentés. Et puis pour la petite histoire, ce qu'il y avait d'assez incroyable, c'est que moi, quand je cherchais des choses là-dessus, parce que j'avais vu un film d'un phonéticien là-dessus qui avait été fait dans les années 50. C'est aussi la raison pour laquelle moi j'avais voulu travailler là-dessus. Donc j'avais écrit un peu partout, notamment aux États-Unis et au Canada, auprès du laboratoire de langue. Et donc en fait, on m'a répondu du Canada, enfin de Montréal, que la plus grande spécialiste, en fait, elle était en France, alors que j'avais écrit absolument partout. Donc j'ai pu la rencontrer et donc commencer à travailler avec elle. Donc sachant que les premiers documents là, sur les langues sifflées, réalisés par Busnel dans les années 50, c'est des choses qui avaient des dialogues qui avaient été enregistrés en France, dans la vallée d'Aas, donc c'est dans le Pays Basque. que c'était pas possible d'aller continuer les recherches puisque ils étaient tous morts et donc qu'il n'y avait plus cette pratique de cette langue. Donc la langue sifflée, en fait, c'est une langue qui est utilisée par souvent des bergers ou des habitants de régions montagneuses pour pouvoir communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Et donc ensuite, je suis allé donc sur l'île de La Gomera, aux Canaries, où là, il y a encore ces pratiques du langage sifflé. Et d'ailleurs qui ont été classés en 2006 comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Donc j'avais commencé à travailler avec eux depuis quelques années déjà. Donc le film que j'avais fait a été aussi présenté dans ce cadre, sachant que ce n'était pas un film documentaire, mais que c'était un film qui s'intitulait Prologue, où j'avais demandé à des siffleurs d'interpréter en sifflant les dialogues que moi-même j'avais écrits. Donc voilà, donc avec eux, ça a été la première grande expérience de ces langues. Donc ces langues sifflées, là, pour le coup, c'est en espagnol. Et donc ce sont des langues miroirs, c'est une amplification de la mélodie de la langue et des voyelles. Et qui nous permet, même quand on parle l'espagnol, de commencer à comprendre. Et quand on écoute bien, donc on reconnaît en fait la mélodie de la langue. Alors eux, ils ont une langue sifflée qui est très 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 puissante. Donc ils sifflent avec leurs doigts, ça peut aller jusqu'à 8-10 km de distance. Et donc c'est la seule langue connue au monde qui utilise finalement la topographie du paysage comme système d'amplification du son et qui nécessite aussi d'être à distance et d'être éloigné pour se parler. Et donc ça, je trouvais ça absolument merveilleux comme système de communication, comme langue. Puis quand on les écoute, on a vraiment l'impression que ce sont dans un premier temps des oiseaux dans un second temps, vraiment de la musique. Par contre, comme c'est une langue, ce qu'il y a d'assez étonnant et en même temps logique, c'est qu'on ne peut pas chanter en sifflant. C'est-à-dire que là, ça ne marche pas. Ça bloque. Bah oui, parce qu'on n'est plus dans le même système. Donc, ça, c'est en même temps assez intéressant. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire dans cette langue, c'est que finalement, ça semblait être l'origine de toutes les langues, alors de façon effectivement poétique, hein, en se disant, bon, finalement, l'origine du langage vient de l'imitation aussi, quelque part, de l'écoute des oiseaux, hein, parce qu'on a effectivement les phonèmes, les phrases musicales. Et donc, j'en ai parlé aux phonéticiens, ils m'ont dit, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment pas prouvé, mais ils disent, pourquoi pas. Mais bon, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, finalement, si c'est le chant des oiseaux qui est à l'origine de toutes les langues, c'est aussi la musique, et que, donc, c'est le socle fondateur du langage et de la communication. Et que les questions que je me posais sur le rapport finalement de langue et musique se trouvaient là de façon complètement extraordinaire, résolue, dans ce que moi je cherchais. Donc voilà, deux photographies donc là de siffleurs, donc entre autres, hein, c'est moi là, donc qui a appris à siffler. Au moins quelques phrases, hein, parce que sinon il faut à peu près une quinzaine d'années pour maîtriser complètement ce langage. Alors, pour le langage sifflé, en fait, il y a plusieurs dans les 40 communautés dans le monde, bien sûr, comme ce sont des langues miroirs, donc aucune communauté n'utilise la même langue de référence. Donc ils ne se comprennent pas. Ceci dit, chose extraordinaire et encore une fois très très poétique, c'est que toutes les communautés que j'ai rencontrées de siffleurs dans le monde s'appellent tous le peuple du ciel. Que ce soit des îles Canaries, en Chine, au Mexique, et qu'ils communiquent aussi effectivement très quotidiennement avec les oiseaux, qu'ils ont une connaissance parfaite des oiseaux de leur environnement, y compris de leur environnement aussi géographique. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'idée d'une symbiose entre l'espace géographique, le paysage, les oiseaux, enfin le monde animal et leur vie, en fait, leur quotidien. Donc voilà, alors ensuite j'ai poursuivi ces recherches, parce que ça a mis très longtemps quand même, donc au Mexique, donc chez les Indiens du Chinantec. Donc eux qui utilisent des langues tonales, et puis aussi en Chine, et puis aussi en Sibérie. Et là c'est donc ce que j'ai poursuivi autour du bourdon harmonique, hein, qui est une forme de langage sifflé, mais pour d'autres usages, c'est ce qu'on appelle ici le chant diphonique. Donc c'est des sifflements qu'on obtient. Non pas avec des sons de gorge, hein, mais de la cage thoracique, donc où là le corps devient un vrai instrument. Et sont des sons effectivement aussi très très puissants. Ces langues sifflées m'ont amené à traverser le monde à la recherche de ces communautés pour aller les chercher, pour les rencontrer. Voilà. Le premier film que j'ai réalisé sur l'île de la Gomera, là où on voit la traduction en espagnol des dialogues sifflés. Donc ça, c'est une autre. Ça, c'est le second film, intitulé Inverse, réalisé en 2008, 2007-2008, là, réalisé en Chine, et où pour la première fois j'ai demandé la collaboration avec une compositrice, Leïla Tian, que j'avais rencontrée au Festival Agora à l'IRCAM, et qui est franco-chinoise. Compositrice de musique contemporaine. Donc là, pour ce film-là, j'ai décidé de faire un film en noir et blanc qui serait qui constituera en fait la partition pour sa composition musicale. Donc je lui avais donné aussi un certain nombre de fichiers d'enregistrement de paroles sifflées qui sont très différentes en Chine, puisque là on voit une image là, mais en fait, il siffle avec des feuilles dans les montagnes. Donc, c'est dans la province du Kwushu, donc c'est dans le centre de la Chine, dans les montagnes karstiques, là, comme dans les dessins ou les lavis. Donc, c'est là où ils vivent. Hein. Donc, il y a une toute petite communauté là-bas qui reste parce que pendant la révolution culturelle, il y a eu beaucoup de minorités qui ont disparu, là il y en a encore quelques-uns. Avec des feuilles, ouais, avec des feuilles d'arbres, d'un certain type d'arbres, et donc en fait ils s'en servent comme hanches.
La bande-son de la vidéo, c'était.
Elle n'a pas utilisé, en fait, mais je vais vous faire écouter après. Les enregistrements et les fichiers que je lui avais donnés. Par contre, dans sa composition, donc sa composition musicale, elle a utilisé les variations mélodiques.
écran qui est libre. Hein.
Ça, master est allumé, est-ce que c'était muté? Ouais. On entre là, c'est ça. Faut peut-être éteindre et rallumer la table, hein, comme ça fait à chaque fois. Je le fais.
C'est juste déjà pour vous approcher. Ça doit être ça.
La technique.
Je réessaye.
Ouais. Ah, mais là, le son, il est vachement baissé, non ? Sur votre ordinateur.
Hein ?
Juste à gauche, là. Ici.
Ah oui. Attendez, je vais voir si j'ai un.
C'est sur quoi qu'il faut se mettre? C'est sur.
Non, c'était bon, c'était calé.
Regarde, ah, ouais.
Je l'ai éteint et allumé à l'instant.
Ah bon? Non, ouais, bon, je vais vous faire écouter sinon celui-là.
Non, c'est bon, je peux. Enfin, c'est elle. Celle qui nous fait.
Ah, il n'y a pas de son.
Non, mais je l'ai rallumé.
Oh.
Ouais. Là, ça roule. Non, ça ne tourne pas.
J'entends quelque chose.
Là ?
Il y a un tout petit peu de signal qui rentre.
C'est
une. Peut-être sur les préférences. Enfin, c'est une console numérique, donc. Elle a des petits problèmes.
On a déjà ici.
Sur l'ordi, en enlevant, il y a le son.
Oui. On va déjà voir si ça sort de l'ordinateur. Voilà. Là.
C'est mieux.
La sonorisation. Oui. Attention.
Voilà, ça va venir. Non, moi j'ai du son qui vient, ouais.
Alors c'est quoi ça?
Non,
là il n'y a pas de son qui sort de l'ordinateur. Hein.
C'est très étrange.
Alors, vous devez regarder dans les préférences système si.
Attendez, allô.
Ouais. Vous voulez regarder dans les préférences système le son, s'il vous plaît. Et en sortie, par où ça sort.
C'est comme ça.
Ah ouais, ça dérive, il est désactivé.
Sorti.
Désactivé sur l'ordinateur même.
Bah ouais.
Non, ah là vous sortez par une carte son, Optoma. Ouais. Ah il faut choisir haut-parleur interne.
Ah bah oui.
Voilà.
D'accord. Ah ouais, c'est le l'HDMI qui prend le.
Donc c'est bon.
On va essayer. Oui. Parce que là, ça sortait pas par le haut-parleur ici. On va déjà voir si ça sort de l'ordinateur. Et après, on mettra la sono.
Là, il n'y a rien. Le son,
c'est peut-être. Il faut peut-être laisser le son. Il faudrait voir comment. Il n'y a pas l'air d'avoir
de.
Faut le monter au
plus
vite. Ah oui, ici.
Voilà.
Ah oui.
Ouais.
Alors. Donc, je recommence.
Ça va peut-être fonctionner.
On va y arriver, hein. Là c'est sûr que c'est bon.
Ah!
Attention, tu baisses.
Okay.
C'est bon.
Voilà, et il y a l'image néanmoins qui est sous contact. Ouais. Mais c'est arrivé d'un coup en fait.
Ouais.
Ouais.
En fait, c'est arrivé au moment où il s'est mis en veille.
Ben oui, il suffit de dire.
Allez, bonjour.
Je vais mettre un peu plus. Donc là, je vais vous montrer des extraits. Donc c'est une composition donc qui dure 15 minutes. Alors là, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai fait fabriquer des instruments en verre, que vous verrez après dans l'installation. Une batterie en verre, une flûte en verre et d'autres percussions, et qui sont utilisées là, dans le cadre du concert. Et la compositrice a écrit en sachant que c'était, que les interprètes utiliseraient ces instruments de verre. On va avancer un peu. J'ai fait fabriquer aussi des appos. Voilà, il n'y a plus d'image. Et c'est des instruments là aussi qu'on entend, donc et qu'elle utilise. moi non plus.
Qui est la chanteuse ?
Chieko Hayashi. Donc c'est une chanteuse, une mezzo-soprano japonaise, donc avec laquelle maintenant je travaille depuis 8 ans. Qui travaille surtout dans le cadre d'interprétation de musique contemporaine. Alors, je vous montrerai celui-là. Donc ça, c'est aussi un... Hein ? Donc ça, c'est le langage sifflé, bouilli. Donc pour ça, donc j'ai écrit les textes en français, qui ont été traduits en mandarin, puis en langue bouillie, puis en langage sifflé. Alors, je vous les montre séparément, puis après je vais vous montrer les images des installations dans lesquelles ces vidéos sont projetées. Alors ça, c'est l'installation, donc oh là, la projection, elle est... Ouais. Ouais, qui s'intitule Feedback, là où on voit les instruments donc en vert, donc les percussions, la flûte et puis la batterie avec la projection du film donc derrière. Et donc les instruments étaient posés dans l'installation sur des sortes de socles qui étaient posés dans un bassin qui faisait 80 mètres carrés et qui faisait aussi miroir, qui permettait de voir le reflet des instruments, mais aussi du film. Et les films qui ont été réalisés sont aussi en négatif, parce que ce qui m'intéressait là, c'était que tous se trouvent en écho, en négatif, comme la langue qui est aussi utilisée. La langue sifflée et qui est donc cette langue miroir, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, hein, ce qui est en inverse. Donc ça, c'est une autre installation. Alors là, c'est l'installation donc The Whispers. Donc alors pour cette installation-là, il y a le film que vous venez d'entendre, une partie, The Whispers, avec le réalisé en Chine. Donc, et on rentrait dans l'espace là, qu'on voit à droite. C'était au centre d'art contemporain là, qui était à l'époque dans la scène nationale à Orléans. Donc, juste avant, après que. Enfin, c'était juste avant que ça, qu'il n'y ait plus de centre d'art contemporain là-bas. Donc, cette salle, elle fait à peu près 250 mètres carrés. Donc, le sol était couvert de caoutchouc reconstitué en poudre, de façon à isoler en même temps, faire un isolant acoustique. Et là, pour cette installation-là, j'ai travaillé avec l'IRCAM pour mettre en place un dispositif sonore interactif où ils ont utilisé le logiciel donc Max. Donc il y avait 5 câbles de 20, 18 mètres qui étaient tendus entre les deux murs, donc de façon à constituer au centre de la pièce une portée musicale. Et donc il y avait 7 canaris chanteurs qui, lorsqu'ils se posaient sur les cordes qui étaient amplifiées, et en même temps pour chaque niveau de corde, il y avait toutes les 40 cm un type de son spécifique, donc tout était relié sur l'ordinateur, et quand les oiseaux donc se posaient sur les câbles amplifiés, donc ça déclenchait les sons, mais toujours différents. Mais c'est aussi un instrument à cordes, puisque l'idée aussi c'était que l'espace soit un instrument. Donc on était dans le corps de l'instrument, mais on pouvait aussi jouer avec ses cordes. Et donc la bande son était constituée par la bande son de la vidéo, donc avec ses paroles sifflées, mais aussi de façon complètement aléatoire par les sons qui étaient déclenchés par les oiseaux quand ils se posaient, ou bien par les spectateurs lorsqu'ils jouaient avec ses cordes. Donc là, c'était l'installation aussi de l'exposition au musée de l'objet, la collection d'art contemporain de Blois. Donc ça, c'est table de fréquence, ça c'est des... On voit là les 10 mètres cubes d'espace sonore que j'avais présenté au fond. Et la table de fréquence, en fait, c'est à partir de l'analyse spectrographique des sons du centre de Shanghai. Donc, ou avec des piles de papier. Donc, j'ai reconstitué en 3D ce morceau. Donc, ça... Alors ça, c'est une installation donc, qui s'appelle Rhapsodisque, que j'ai présentée donc, là, au musée Curtius à Liège, dans le cadre de Rupalia. Donc c'est une sorte d'orchestre constitué de 5 platines 33 tours avec 5 disques photoluminescents et sur lesquels j'ai enregistré 5 morceaux. Donc il y a une projection vidéo donc dans l'espace, donc qui est sous la forme d'un panoramique, un film que j'ai réalisé sur les toits de la plus haute tour de Shanghai, et donc il y a 5 morceaux donc sur chaque face sont des sons que j'ai enregistrés aussi dans la ville, mais aussi avec des musiciens de rue. Et l'idée étant avec un système de retour mécanique du bras de lecture, ça fonctionne en continu pendant 3 mois, de façon complètement aléatoire, et que c'est un morceau qui ne s'arrête jamais. Et donc la lumière, ça fonctionne effectivement en lumière noire. Les socles sont noirs et les disques photoluminescents flottent complètement dans l'espace. Et avec le film donc en panoramique à 360 degrés et les disques 33 tours qui tournent en continu et de façon avec les morceaux qui se superposent, on est dans une sorte de boucle continue. Donc ça, ce sont des œuvres silencieuses, donc ce sont des disques 33 tours qui ont été donc sculptés. Et donc là, avec les 7 qu'il y a en bas, donc c'est l'analyse spectrographique d'une phrase. Pour chacun des disques, ce sont aussi des mots et des phrases qui ont été sculptés donc dans les 33 tours et extraits là, dans la dernière partie.